Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. C'est dimanche, le jour du Seigneur. Alors nous prenons le temps de célébrer la messe. Et je me rappelle que c'est mon collègue qui a fait l'homélie. Et il a souligné non seulement la mission que le Seigneur nous confie, mais aussi l'appel. Le Seigneur appelle. Et nous devons être disponibles à entendre cet appel en vue de la mission. Et là, nous allons rencontrer deux jeunes qui nous attendent après la messe. Alors, c'est toujours le fameux père Christian qui a organisé les choses, parce que lui, il est parti au nord du Mexique, parce qu'il y a une réunion très, très importante. Alors, le père Christian nous a laissés, parce qu'il y a autre chose à faire. Il n'est pas comme nous, en pèlerinage. Donc, il nous a confié à Alessandro, qui est un jeune Mexicain de 32 ans, et Andrew, qui est un Américain de 25 ans, qui viennent nous chercher. Ce sont deux jeunes novices de la Fraternité des prêtres dont je vous parle. Alors, l'histoire d'Alessandro, ce qu'on entend à travers ce que nous allons vivre, eh bien, c'est un jeune Mexicain qui, assez jeune déjà, et se sent vraiment appelé à donner sa vie au Seigneur. Les parents, ce sont des professionnels, les parents vont bloquer d'une certaine façon son élan en lui disant « Tu es trop jeune, prends le temps, nous te demandons de faire des études professionnelles, des études, bon, alors il fera son droit, il deviendra avocat. » Alors il fait des études de droit. Et les parents avaient dit, lorsque tu auras terminé tes études, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, les parents, peut-être que le jeune allait changer d'idée, bon, lorsque tu auras terminé tes études, eh bien, tu feras ce que tu voudras. Eh bien, Alessandro a passé son examen de droit, il a réussi admirablement, et le lendemain, il entrait dans la Fraternité des prêtres. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, l'appel était profond dans son cœur. Il a attendu toutes ces années, il a fait ce que ses parents lui ont demandé. Je pense que les parents ont été aussi prudents. Le jeune était plein d'ardeur et voulait tout de suite plonger dans la vie avec la Fraternité des prêtres. Les parents ont dit non, c'est pas le moment. Ils ont fait une belle parenthèse. Il a toute sa formation en droit. C'est un garçon brillant. Le lendemain, après l'examen, réussite, il entre dans la Fraternité des prêtres. Et là, il étudie la philosophie, la théologie. Il a 32 ans. Andrew, un autre parcours, beaucoup plus simple. Il vient, je crois, du Vermont. Donc, c'est pas loin d'ici, hein. Il vient du Vermont et se retrouve à Mexico dans cette fraternité. Tous deux viennent nous chercher et là, nous allons visiter un musée où se trouvent les œuvres des deux artistes dont je vous ai déjà parlé. Deux artistes mexicains très connus du XXe siècle, Frida Kahlo et Rivera. Une histoire, comme je vous ai dit, très difficile entre ces deux artistes. Bon, cette femme aura un lien avec cet artiste. Les œuvres de Frida Kahlo, on ne les verra pas. Elles sont en Russie. Alors, on est chanceux. Hein. C'est en Russie. Alors, le jeune Alessandro va prendre un livre qui se trouve dans une boutique et va prendre le temps de nous montrer quelques esquisses et de nous expliquer vraiment les choses. Et là, je le regarde à la fin et je me dis, on sent bien que tu es en philosophie. C'était tellement bien expliqué. Tellement bien expliqué, avec beaucoup de respect. Il faisait le lien entre la vie dramatique de cet artiste et des œuvres. Assez difficile à voir. Donc voilà, et nous allons continuer de visiter cette propriété qui est une ancienne hacienda. C'est une propriété coloniale, très bien entretenue. Alors on y retrouve des jardins, il y a des animaux qui se promènent, des pins qui sont juchés dans des arbres. Alors c'est assez spectaculaire, n'est-ce pas? Ensuite, nous voyons des chiens précolombiens. C'est une race que je ne connaissais pas, mais les chiens précolombiens, ils n'ont pas de poils. Ils sont chauves et ils ont une peau grisâtre. C'est un peu drôle, c'est un peu impressionnant de voir ces chiens précolombiens. Alors, il y en a. Et on nous explique un petit peu les choses. Nous voyons les œuvres de Riviera, l'artiste, on voit l'évolution, on voit toute la période classique, le cubisme, l'influence de Picasso. Alors, il a peint des scènes mexicaines extraordinaires, des scènes russes aussi. C'est un grand artiste, qui a vécu aussi des moments révolutionnaires, de tendance communiste. Alors, on est tout dans cette période, vous savez, de ces années du début du siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, rappelez-vous l'histoire de la Russie, bon, tout cela, le communisme naissant. Alors, c'est le monde entier qui sera touché. On va voir cela en France, on va voir ça en Italie, on voit ça, voyez-vous, au Mexique. Alors, toutes ces influences, toutes ces idées vont circuler de par le monde et vont aussi être transmises à travers des artistes. Les artistes ont cette sensibilité, ils pressentent des choses. Alors, vous avez des chanteurs, vous avez des comédiens, vous aurez des gens qui font du cinéma, vous aurez des peintres, vous aurez tout ce monde artistique qui vont entrer dans ces mouvements. Donc, nous allons poursuivre après la visite de ce musée. Nous sommes quand même un peu déçus de ne pas voir les œuvres de Frida Kahlo qui se trouvent en Russie. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Il la laissa là, chancelante, sur le seuil de la porte. Allait-elle sortir ou revenir sur ses pas? Petit Jean se sentait enchaîné, il ne savait que faire. La honte s'empara de lui, et passant comme un éclair près d'elle, il s'enfuit en courant. Elle ne bronchait pas, elle savait qu'un malaise venait de les atteindre tous les deux. Ayant fait le tour de la maison en courant, Petit Jean revint vers elle, et reprenant ses deux mains, il lui fit traverser le seuil de la porte sous le soleil. Elle savait qu'il pleurait. Et tout en marchant trop lentement, il lui disait « C'est absurde tout cela. Redeviens ce que tu étais. Retrouve tes yeux, tes pieds, ta force. Dis-moi que tu retrouveras ta force. J'étouffe dans ta nuit. » Il l'aida à s'étendre sur la longue chaise qu'il avait préparée pour elle. Puis il la couvrit avec soin. Et se mit à répéter « Morte l'étoile !» Petit Jean restait immobile, sans âme. Elle lui dit alors « Si la première nuit nous atteint par une mort physique, la seconde
est comme le feu d'une chandelle sur laquelle le vent souffle pour l'éteindre. »
La dame de la montagne se mit à raconter les difficiles repères intérieurs qu'il lui fallait discerner pour descendre d'une nuit à l'autre. Chacune des étranges paroles cachait un nouveau mystère. Elle devait alors atteindre une telle profondeur pour écouter le passé qui ne reviendrait plus. Elle finit par expliquer le sens de « morte l'étoile ». C'était la perte de son éclat.
« Je n'ai plus d'éclat, Jean »,
avait-elle dit gravement. Cette nuit avait donc commencé au moment de la descente de la montagne pointue. L'étoile avait cessé de briller depuis déjà quelques nuits. Aussi appréhendait-elle la réaction des gens d'en bas, qu'elle connaissait bien.
« Lorsque cette première estime, tissée à même toute une vie, est perdue, le monde nous jette dans une telle nudité. »
Petit Jean écoutait maintenant avec son âme. Elle poursuivit.
« Les gens se refusent à nous admirer et nous laissent tomber, car leur étoile est morte. »
Petit Jean découvrit que lui aussi venait de vivre ce délaissement. Elle ajouta.
« Jean, c'est ma vieillesse qui t'oppresse, non pas mes yeux morts. Elle te ralentit. Nous devrons lutter ensemble pour que nos rythmes ne nous tuent pas. »
Petit Jean se leva et replaça la couverture sur elle. Puis, remontant quelques cheveux épars, il l'embrassa sur le front. Elle eut un profond soupir et savait qu'il ne l'abandonnerait jamais dans leur tempête. La laissant seule dehors sur une petite galerie, Petit Jean remonta le chemin vers l'église et la vieille grange pour voir s'il apercevrait à nouveau la fillette rousse. Il se mit à penser que jamais plus il n'entendrait morte l'étoile. Et son esprit courut vers l'énigmatique long horizon bleu. C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.